France Inter.
Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus dans Grand Main vous fasse, désormais tous les vendredis à 10h. Vous avez sans doute vécu dans votre vie des échecs, des fiascos, des flops, dans votre vie sociale, professionnelle, personnelle, intime, familiale. Et après tout, est-ce si grave que cela, une vie plus ou moins pavée de gadins? Pourquoi forcément ressentir des émotions négatives quand on rate? Pourquoi l'estime de soi doit-elle forcément en prendre un coup? Et si nous sortions de cette injonction à la performance, comme le rappelle justement la philosophe Marianne Chaillant, il faut sortir de cette injonction à ne pas rater sa vie, ne pas se perdre dans la quête d'une vie réussie, une quête épuisante et vaine. Nos échecs, nos fiascos peuvent changer notre vie, nous conduire paradoxalement vers un chemin heureux. Être heureux plutôt que réussir sa vie, c'est d'ailleurs le credo de l'un de nos invités, le comédien et humoriste Thomas VDB, accompagné ce matin de la philosophe Laurence De Villers. Ont-ils un jour raté leurs chroniques respectives? Jamais. Quoi qu'on n'ait pas à l'abri d'un ratage tout à l'heure. Bonjour Thibaut de Saint-Maurice et Guillaume Todicino, Thibaut, chercheur en philosophie. Quel est le menu de votre punchline, philo?
Donc, vous pourriez tous constater donc, la bienveillance dans laquelle nous travaillons. Aujourd'hui, c'est une punchline du philosophe moustachu Nietzsche. Ce qui ne me tue pas me rend-il plus fort?
Guillemette, chef de rubrique Cinéma Télérama, quelle est votre ordonnance de cinéthérapie cette semaine?
Alors, en dehors du fait que je trouve cette punchline vraiment problématique, parce que moi, ce qui me tue pas m'affaiblit de ouf, mais bon, je vais vous parler de la loose. Mais c'est bien, il faut rien foutre et tout échouer.
J'espère ne pas foirer cette émission. Bienvenue dans Grand Main vous fasse, l'émission qui donne du sens à votre vie quotidienne.
France Inter, Grand Bien vous fasse, Ali Rebéi.
Parfois on connaît des échecs qu'on ne vit pas mal. Par exemple, si vous êtes, je sais pas, un entrepreneur audacieux et que vous avez tenté quelque chose d'audacieux mais que vous savez que ça peut échouer et que ça échoue, au fond, vous le vivez mal, ça fait partie du champ du possible. Si vous êtes si vous draguez quelqu'un et que c'est périlleux et que vous prenez un râteau, vous saviez que c'était dans le champ du possible, donc vous ne le vivez pas mal parce que ça fait partie d'un rapport audacieux à l'existence. Ce qui fait l'échec, c'est donc pas l'échec, c'est le sentiment de l'échec. C'est comment je le vis. Et d'ailleurs, autrement, il y a aussi des erreurs qui sont simplement des erreurs qu'on ne vit pas avec un sentiment d'échec. Donc c'est bien le sentiment de l'échec qui fait l'échec.
Charles Pépin sur France Inter en décembre 2019. Bonjour Thomas VDB.
Bonjour Ali. Bonjour.
Je suis ravi de vous recevoir dans Grand Main vous fasse. Vous êtes humoriste, comédien, journaliste, longtemps sur France Inter et vous publiez Fiascorama chez Buchet Chastel. Vous n'avez pas peur de faire un gros bide avec un tel titre?
Ben ouais, ce serait l'apothéose. Ce serait l'apothéose si ce livre ne se vendait absolument pas. Je pense que ce serait le couronnement.
Le but ce matin, c'est d'en faire vendre le moins possible. Et de dissuader voilà. Les auditeurs, les auditrices d'acheter votre livre.
Absolument.
Vous êtes d'accord avec ce que vient de nous dire Charles Pépin quand il nous dit que c'est le sentiment de l'échec qui fait l'échec?
Disons, oui, probablement. Disons que c'est le regard qu'on porte dessus. Donc si on se décide, après quelque chose qu'on ressent comme un échec, de se dire « je suis nul » et donc tout ça m'enfonce, évidemment, certainement que c'est le sentiment de l'échec. Parce que moi, je pense que le sentiment de l'échec, il dure le temps qui dure, mais après, et c'est ce que j'essaie de faire avec le livre, c'est d'utiliser toutes les fois où je me fais rire moi-même avec mes propres échecs, a posteriori, de me dire « mais qu'est-ce que j'ai fait là? Mais c'est pas possible !» Et d'en rire, pour ensuite en faire des histoires rigolotes.
Mais ça crée un sentiment empathique chez le lecteur, parce qu'on a envie de vous prendre dans les bras quand vous racontez toutes ces foirades, tous ces flops. On a de l'amitié pour vous. En fait, on n'a pas envie de vous juger en se disant « tiens, c'est un loser ». Non, on a envie de vous prendre dans les bras et de se dire « mais mon pauvre chéri, c'est pas si grave que ça ».
Eh ben, prenez-moi dans vos bras. Non, je pense que effectivement, ça doit susciter... moi, quand je lis un livre...
Ça suscite de la tendresse.
Voilà, je suis assez très facilement attendri. Mais c'est vrai que la tendresse, c'est déjà fait un livre il y a 3 ans, on m'avait déjà dit je voulais faire un livre drôle comme j'ai voulu faire avec celui-ci. Et on me dit aussi que c'est tendre. Ouais. On me dit, mais c'est tendre. J'ai l'impression d'être un médaillon de
veau. Non, c'est drôle, honnêtement, franchement. Pas que tendre.
Voilà. Oui. Mais effectivement, c'est bien. J'ai aussi envie que ça suscite l'universalité. C'est-à-dire que les gens se retrouvent dans le côté désaggravant de raconter son propre bide et que les gens puissent s'y retrouver un petit peu, dire ah bah oui, apparemment, c'est pas si grave que ça de se prendre un bide.
Bonjour Laurence Villers.
Bonjour Ali.
Agrégé de philosophie. Normalienne, dernier essai paru en poche chez Point, La splendeur du monde, pourquoi nous ne savons plus voir. Vous êtes d'accord donc avec votre collègue, votre confrère Charles Pépin, c'est le sentiment de l'échec qui fait l'échec?
Oui, je suis d'accord, parce que je pense que on commence à souffrir de l'échec quand on pense que l'échec, c'est moi. L'échec est mien, et je pense que c'est important de se l'approprier, de l'analyser, de le regarder dans les yeux, mais l'échec n'est pas moi, c'est-à-dire je ne me réduis pas à mon échec. Je suis bien autre chose que mon échec, et je pense même que parfois, quand on se plante, c'est parce qu'il y a quelque chose de plus important qui nous fait agir que la réussite. Mmh. Ça peut être la liberté, ça peut être la justice, ça peut être la tendresse, ça peut être aussi vouloir n'appartenir à personne, et c'est ça qui fait rater. Mmh. Mais ça veut dire que c'était plus important. En même temps, j'ajoute juste une nuance, ça me paraît important, parce que moi j'ai subi des RH qui n'arrêtaient pas de dire c'est votre ressenti, il n'y avait rien d'objectif.
Les ressources humaines.
Bah oui, je pense qu'il y a des échecs qui sont objectifs, on nous met en échec. Et ça c'est important de le dire, ça ne dépend pas entièrement de moi, il y a des gens qui font tout pour vous faire échouer.
Thibault ?
Oui, en fait, dans cette question de savoir si c'est à moi ou etc., ou si c'est, il y a des situations objectives, en fait, il faut distinguer le fait et le jugement, on pourrait dire. Voilà, factuellement, qu'est-ce qui est de l'ordre de l'échec ? Est-ce que, je sais pas, je voulais réussir à empiler 8 boîtes de conserve, j'en ai fait tomber 2, enfin pardon, c'est un exemple débile, mais
oui, un peu.
Voilà. Bref, non mais, vous voyez, qu'est-ce qui est de l'ordre ? Parce que quand en fait on nomme mal les choses, c'est l'ami Camus, mais quand on nomme mal les choses, en fait on ajoute à la misère de la situation, pour le paraphraser, c'est-à-dire que parfois on est piégé par nos propres descriptions. Un autre exemple peut-être un peu meilleur, mais qui est les jeunes enfants, quand ils essayent, je sais pas, de faire un lacet, de dessiner un bonhomme, de faire le monsieur patate, là, etc. Eh ben, en fait, on peut leur dire, bah oui, non, tu n'as pas encore réussi, etc. Ou, au contraire, leur dire, bah, tu vois, c'est mieux que la fois précédente. Et donc, il y a cette dynamique aussi, dans laquelle on peut lire l'événement, qui peut en changer. C'est l'histoire du verre qui est... parfois à moitié plein et en même temps toujours à moitié vide.
Guillemette.
Non, je voudrais juste dire deux choses. D'abord, la plupart du temps, quand on échoue, c'est la faute des autres. Voilà, merde, voilà. Premièrement. Et deuxièmement, pour savoir si on échoue, il faudrait d'abord avoir une bonne définition de la réussite. Et alors là, excusez-moi, ce sera sans doute l'occasion d'une autre émission, mais moi, je ne sais pas exactement non plus ce que ça veut dire réussir. Et le monde actuel qui nous montre certains schémas de réussite, je ne suis pas persuadée d'avoir envie de m'y inscrire non plus.
Thomas VDB.
Moi, j'ai l'impression de me rappeler beaucoup plus de mes échecs que des choses que je peux avoir l'impression d'avoir réussi. C'est-à-dire que, pour rebondir sur ce que disait Thibault, effectivement, le regard qu'on porte sur notre échec. Par exemple, dans mon livre, à un moment, je raconte qu'il y a une vingtaine d'années, avec un spectacle de rue, je jouais à Aurillac avec un pote, et à un moment, on doit arriver pour jouer, on croyait que la foule s'était déjà installée, et d'un seul coup, on a notre micro, puis on est là, on y va, et on fend la foule, et on commence à gueuler comme ça, ça y est, on arrive, et tout. Et en fait, il y avait un spectacle de mime qui était en train d'avoir lieu. Et donc, j'arrive en gueulant comme ça au milieu d'une foule, et là, il y a un mec, donc le mime Marceau, qui me regarde comme ça, et le public qui tourne la tête vers moi, et le mime n'a le droit de rien dire. Évidemment, parce qu'il est mime, et moi je suis en train de gueuler. Et là, le pauvre mime qui est obligé de lâcher, on peut terminer le spectacle quand même. Et je suis merde. Le mime, le gars, ils n'ont pas entendu sa voix depuis une heure. Et cette image-là, je l'ai depuis 20 ans dans la tête. Mais les gens du public, ils l'ont oublié ce truc-là. Mais pour moi, c'est fondateur de ma vie, le regard du gars. Ben, c'est bon là, on peut terminer. Et ça, c'est les moments de honte qui sont des socles de ma vie en fait. Mais évidemment, les gens du public ont compris. Ça leur est sorti de la tête.
Un très très beau fiasco. J'aimerais qu'on s'attarde sur la définition du mot fiasco. Alors, c'est un mot qui a été introduit par Stendhal, l'auteur du Rouge et le Noir. Fiasco vient de l'italien far fiasco, et suit un échec, et Stendhal l'employait au sens de défaillance d'ordre sexuel. Alors Thomas VDB, n'est pas question dans votre livre de défaillance d'ordre sexuel. Hein, vous évoquez dans ce livre quelques étapes de votre vie émaillées par pas mal de ratages et tout de même quelques réussites.
Oui, bah sinon c'était si je voulais raconter un petit peu mon parcours de comédien, ce que j'ai voulu faire, il fallait qu'il y ait quand même une illusion un petit peu de progrès, sinon quoi, on est là, il nous raconte qu'il est dans la boue tout le temps ce gars-là. Et donc effectivement, je pense que c'était important on peut pas raconter l'échec si on raconte pas les choses qui progressent un petit peu. Enfin,
pourquoi est-ce que vous avez choisi ce mot fiasco plutôt que ratage, échec, flop ? Moi j'ai l'impression qu'il y a quelque chose de flamboyant dans ce mot fiasco.
On dirait une pizza. Fiasco. On dirait qu'il y a un côté panache un peu. C'est pas échec, ça plombe quoi. Fiasco, c'est un mot, je sais pas, c'est italien, non, j'imagine.
Oui, tout à fait. Far fiasco. Fiascorama, ça fait penser à cinérama. Le cinérama, c'est un procédé de projection sur un écran extra large. Cinérama, c'est la contraction de cinéma et de panorama. Et dans ce livre, j'ai l'impression que le fiasco est presque érigé en œuvre d'art.
Ben oui, c'est vraiment, je me suis dit, si je fais quelque chose d'aussi, sur le papier, aussi nombriliste et prétentieux que de raconter ma vie, ce qui est quand même le truc qui n'intéresse personne, je me suis dit, ayons au moins la politesse d'être un peu drôle. Et je me suis dit, l'aune à laquelle je peux raconter tous mes fiascos, n'est que, mon parcours de comédien n'est que celle de l'échec. Parce que je ne vais pas raconter. D'ailleurs, j'ai un échange que j'ai eu avec ma femme il y a longtemps, parce que j'ai fait mon premier livre. Et le deuxième, plein de gens m'avaient dit, quand est-ce que tu fais la suite? Et je n'ai pas du tout réfléchi à faire la suite. Et donc je dis à ma copine, je dis ouais, j'hésite parce qu'en fait j'ai peur de raconter, j'ai pas envie de me donner le beau rôle, j'ai peur de donner un côté un peu glorieux. Et là ma meuf me dit, mais que veux-tu raconter de glorieux? Et là je me dis, mais oui, et c'est là que j'ai eu l'idée du livre. C'était pas très sympa de sa part, mais au moins elle m'a donné l'idée de me dire, ben voilà, je vais le raconter sous l'angle de la loose.
Thomas VDB, un fiasco parmi d'autres dans votre livre. Vous êtes sur scène. Et je vous cite, le public se met à pencher la tête comme un chien interloqué par ce qui se passe, comme s'il venait de comprendre que la limite entre spectacle d'humour décalé et plus ou moins n'importe quoi venait d'être franchie.
Oui, je ne sais même plus à quel moment c'est du livre, mais c'est encore une fois où j'ai vu les gens me regarder, je me suis dit, merde, ils doivent se dire que je sais où je vais alors que je ne sais pas où je vais.
Et puis il y a, lors de spectacle, ce couple qui se lève de leur siège au deuxième rang. Et ouais. Vous les interpellez, ouais. Vous leur dites « Peut-être que le spectacle ne vous plaît pas, mais c'est pas terminé. » Et que vous répond ce couple ?
Ils disent « Non, c'est le comédien qu'on n'aime pas. »
C'est pas le spectacle.
Mais ça, devant tout le public. Bon, heureusement, c'était un jour où il n'y avait pas grand monde dans la salle. Parce que histoire que le fiasco soit vraiment complet, hein, qu'on puisse en goûter toutes les saveurs. Mais oui, oui, c'était les débuts du premier spectacle, avec les moments où ça rame, où on joue pas dans la bonne salle, où on joue pas devant le bon public, où on joue 5 fois par semaine, et des fois le mardi soir à 20h, les gens, ils ont pas envie de rire avec moi.
Laurence de Villers.
En fait, en vous écoutant et en vous lisant, je me dis que le fiasco, c'est une part très importante du comique. Je me demande, enfin, les moments où on rit, c'est quand...
Bah, l'autodérision peut faire par...
l'autodérision,
partie
oui.
de...
Mais même sans autodérision, on rit parce qu'il y a quelque chose qui a raté. Et alors je précise tout de suite, c'est pas... ça n'a pas raté, parce que selon la définition de Bergson, c'est du mécanique sur du... Non, parce que du vivant, mais parce que c'est très vivant. Il y a quelque chose de la vie qui déborde, qui n'est pas canalisé, qui n'est pas ciblé, qui n'est pas en vigilance. Et du coup, c'est ça qui fait rire.
C'est la perte de contrôle.
De voilà.
On perd le contrôle sur l'instant.
C'est pour ça que le n'importe quoi... À un moment donné, Louis de Funès, il est pris à son propre jeu comique. Et il fait n'importe quoi. Ou il fait rien, d'une façon. Ouais, ouais. Mais c'est là où on rit le plus.
Pour vous, Laurence de Villers, intégrer le fiasco dans sa vie, en faire quelque chose, c'est d'abord les vivre comme des échecs, sans chercher à les convertir.
Ah oui, moi profondément, si vous me le demandez, je pense que la vie est un fiasco. Donc il faut déjà partir avec cette règle du jeu. Mais je suis autant fatiguée par les fiascos que par le fait qu'il faudrait en faire quelque chose absolument. Je pense que ça épuise dans les deux sens. Il y a de l'échec, et il faut vraiment prendre l'échec pour ce qu'il est. C'est un échec, il y a quelque chose qui a raté. Moi, c'est Christophe Dejour qui m'a appris ça. Je pensais qu'il allait me consoler et m'aider, j'étais dans une situation difficile, et en fait, il a appuyé. Il m'a dit, bah non, vous avez raté, vous êtes trompé, vous n'avez pas vu. Et ça, je pense que c'est important de voir ce qui a raté dans l'échec. Après, rebondir, résilier, etc. Oui, peut-être, mais pas forcément.
Thomas VDB.
On peut rater parce que ce qui a raté dans l'échec, j'ai tendance à me dire, est-ce qu'on peut rater ces échecs?
Mais oui, parce qu'on n'en fait pas quelque chose.
Ah oui, c'est vrai.
Mais peut-être que c'est bien aussi de ne pas être dans l'obligation permanente de faire quelque chose de ces échecs. Et je crois qu'il ne faut pas les rater. Il faut vraiment les regarder et se dire, qu'est-ce qui fait que ça n'a pas marché? C'est ça, à mon avis, qui est la vraie pépite dans l'échec.
Et est-ce que vous avez l'impression, Thomas VDB, que nous vivons dans une culture où l'erreur, l'échec, le flop, le fiasco ne sont pas valorisés?
Alors, je sais pas, en tout cas, on est dans une culture où est beaucoup trop valorisée la performance, et tout ça, il n'y a aucun doute. Et je sais pas si c'est contre ça que j'ai voulu écrire, mais en tout cas, oui, certainement que dans un coin de ma tête, j'ai un problème avec ce culte de la performance, de la compétition, du score, et de la confiance en soi, qui, je pense, est essentielle dans la vie, mais le livre est un peu aussi contre, j'ai horreur des démonstrations de confiance en soi, j'aime pas les gens qui... J'aime bien les gens qui ont confiance en eux, mais les gens qui veulent absolument montrer qu'ils ont confiance en eux, ça m'embarrasse, et j'ai des relations un peu de gêne avec ça.
L'esprit de compétition n'est pas vraiment inscrit dans vos gènes. Pour vous, si on est 14e sur 15, 2000e sur 2000 ans, peu importe si on est heureux, vous ne voyez pas l'intérêt de vouloir être premier à tout prix. Et pour vous, c'est même un calvaire si on a besoin d'être le meilleur pour exister.
Oui, bah, disons que je pense qu'effectivement, le problème de la compétition, c'est bien de vouloir être le premier, mais c'est l'énergie qu'on met à vouloir faire perdre l'autre. Surtout, moi, je ne vois que ça. Je dis, c'est pas sympa, tu vois, dans un match, un mec, il me prend la balle, je suis, hey, t'es quand même pas très sympa. Ben voilà, j'aime mieux. Et moi, j'ai envie de faire un match, mais on compte pas les points, d'accord? On compte, voilà, je suis pas dans la compète. Oui.
Laurence de Villers.
Oui, je pense que, alors, je vais pas me faire des amis, hein, mais...
Comme d'habitude.
Oui, mais il y a une sorte de... Le sport a envahi tous les domaines de notre vie. C'est-à-dire, il faut performer son amitié, faut réussir en amour, faut réussir à être une femme, c'est terrible. On a l'impression qu'il faut décrocher une médaille ou le pompon dans chaque chose qu'on fait. Et je pense que c'est une manière justement de rater en fait ce qu'on fait. Parce que en quoi l'amitié devrait demander d'être réussie? Je comprends pas ce que ça veut dire. Et même la vie, c'est quoi réussir sa vie? C'est déjà pas mal de la vivre. Donc je pense qu'en fait il y a des échecs dans l'obligation à réussir, ce qui n'est pas du tout de l'ordre de la performance. Ou il y a un autre mot moi que j'aime pas du tout, c'est le dépassement. Le dépassement de soi ou se dépasser, mais déjà être soi, enfin ça demande toute une vie. Donc pourquoi se dépasser?
Thomas VDB, ce qui est intéressant avec le fiasco, c'est qu'il permet de changer de voie, d'opérer des bifurcations existentielles. Parce que vous, vous en avez connu des voies de garage, des sorties de route, mais qui vous ont quand même conduit assez souvent sur de fructueuses bifurcations.
Je suis allé sur de fructueuses bifurcations.
Bah oui.
Non, je sais pas à quoi vous faites allusion exactement, mais oui, évidemment. Disons que le premier livre, donc je racontais mon parcours de fan de musique, voilà, qui devient journaliste de musique et qui finalement, ben, se lasse au bout d'un moment du métier que je faisais. Quand ça paraît fou, mais bon, à un moment je me suis lassé de ce métier et surtout j'avais envie de partir sur autre chose. Donc je suis parti dans ce métier-là et pareil, je raconte que j'ai fait longtemps un duo de théâtre de rue et que finalement c'est l'envie un petit peu de voir ce que je valais moi tout seul qui fait que j'ai bifurqué vers des trucs un peu solo, des spectacles en solo et tout ça, mais c'est pas parce que j'ai l'impression d'avoir échoué en l'occurrence avec le spectacle avec mon camarade Rodolphe, donc dont je raconte le duo à qui je faisais, que je suis parti sur une carrière solo après une carrière, déjà avec le mot carrière, mais quand je mets
attention,
le mot carrière quand je dis carrière, mais j'ai la honte en moi qui s'anime.
Allez, il est 10h23, l'heure de retrouver la cinéthérapie de Guillaumette Odissino.
France Inter.
Les films sont plus harmonieux que la vie, Alphonse. Il n'y a pas d'embouteillage dans les films, il n'y a pas de temps mort.
Grand bien vous fasse.
Au cinéma, c'est comme ça et pas autrement.
Ha ha. Bon, alors, cher Ali, là, comme vous me voyez, je vais donc dérouler une chronique devant Thomas VDB, quoi. Humoriste, as de la chronique, l'un des mecs qui me fait le plus rigoler. Donc, ce n'est donc rien de dire que je suis dans mes petits souliers. Alors d'ailleurs, une expression que j'adore, car oui, je suis de ces gens confiants, capables d'acheter une paire de pompes trop petites, en pensant vraiment que le cuir va se détendre. Il est formidable, VDB, car il commence son livre sur ses fiascos perso par une intro sur une notion majeure. La flemme de bosser.
Ah oui.
Alors prenez cette chronique, j'ai commencé à la commencer hier soir à 21h. Mais en vrai, je l'ai écrite à 6h du mat'. Entre-temps, j'ai trouvé essentiel, soudainement vital, de nettoyer à fond mon frigo, de changer la litière des chats, puis j'ai regardé un tuto sur le tricot, véridique, hein, ouais. Écouté 10 chroniques de VDB, puis bon, j'ai eu un coup de barre, je me suis dit que tant pis, j'allais dormir un peu, j'ai mis mon réveil à 4h du mat', et bien sûr, j'ai pas pu me lever. Bon, enfin, franchement, c'est crevant, toute cette énergie déployée, tous ces stratagèmes d'évitement, pour réussir à glander. Alors, heureusement, comme toujours, il y a le cinéma pour me convaincre que le monde serait bien triste, genre 1500 mètres carrés du BHV, sans les losers, les nazes, les paresseux et les bras cassés. Et le plus beau, c'est que c'est souvent ces mecs-là, justement, qui essayent de faire des casses, comme dans Le Pigeon de Mario Monicelli, la comédie italienne la plus drôle du monde, sur les exclus de la gagne et sur un cambriolage raté, exécuté dans toutes les règles de l'art, avec au casting, Marcello Mastroianni, Vittorio Gassman, Toto, Claudia Cardinale et j'en passe. Alors mettez ensemble un ancien boxeur, un photographe au chômage qui se trimballe constamment avec un bébé et a vraiment un bras cassé, un petit receleur, un ancien jockey et regardez-les échouer à cambrioler le monde piété. Il n'y a que Renato Salvatori qui abandonne.
Reste si tu veux, parce que moi je plaque. Et qu'est-ce qui te pend? Tu veux lâcher?
Oui, j'ai bien réfléchi. Et je ne me sens pas le courage.
Mais t'es sonné, non?
Peut-être. Je suis sonné et vous êtes des malins. Cosimo aussi était un malin.
Non,
Non, mais on s'est mis en tête de faire ce coup pour être peinard le restant de nos jours. Seulement, c'est pas pour nous. En tout cas, pas pour moi. Moi, j'ai ma mère, moi, et qu'est-ce qu'elle deviendrait s'il m'arrivait quelque chose? Je me suis déjà trouvé un petit travail au cinéma des Folies. Si tu me cherches, c'est là que tu me trouveras.
Et ce film contient cette réplique, écoutez bien, lorsque le boxeur tente de se faire embaucher sur un chantier, un de ses compères le menace. Ils te feront travailler, tu sais.
Bon, docteur Odissino, le cinéma français sait également faire de géniales comédies à l'italienne.
Eh oui, Ali. Et même Sir Pierre Salvadori est corse, ça sonne pareil. Donc dans Les Apprentis, François Cluzet et Guillaume Depardieu n'ont pas de boulot, pas d'appart, mais ils sont amis. Alors très différents, hein, l'un est le roi de l'angoisse, l'autre le prince de la nonchalance, mais ils ne font rien l'un sans l'autre. Enfin surtout, ils ne font rien. Enfin, rien de constructif, évidemment, préférant faire du ski complètement bourré dans l'escalier de l'immeuble. Alors eux aussi tentent un casse, foireux évidemment, avec, tiens, comme dans Le Pigeon, un chat qui complique sacrément la situation. Surtout dans ce film merveilleusement drôle sur des choses pas marrantes du tout, il y a une déclaration d'amour à tomber de beauté.
Agnès ?
Oui, quoi ?
Je voulais... C'est difficile à dire. Tu m'émeus. C'est pas un très joli mot. Je sais pas comment te dire autrement. Tu me touches. Quand je suis avec toi, je me sens triste et heureux. Voilà. Ah oui, et puis aussi, dès que tu t'en vas, tu me manques. Et même quand t'es là, mais que tu regardes ailleurs, tu me manques aussi.
Bon, alors moi, ça me fout en l'air, ce truc, tellement c'est beau. Alors, sauf que les plus belles déclarations aussi peuvent donner des fiascos, vous verrez, dans le film. Et tant mieux, car la fille, elle n'était pas faite pour lui. Alors voilà, rassurez-vous, amis des défaites, des débâcles et des foirades, échouer vous évite souvent d'être encore plus malheureux en triomphant.
Demain, VDB.
Ben, je suis d'accord surtout avec le choix des films de Guimette qui sont fabuleux. Enfin, évidemment, ce film de Salvadori, je l'adore. Et oui, c'est des personnages, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est fait pour la comédie, les losers. Enfin, ça peut être d'excellents personnages de comédie. Et quelqu'un qui échoue et qui essaie de se battre pour garder la tête sortie de l'eau, c'est toujours, et qui se noie dans un verre d'eau, à moitié vide, parfois même, de se noyer dans un verre qu'on regarde à moitié vide, voilà, ça peut être des personnages intéressants.
L'ordonnance de ciné-thérapie du docteur Odissino, eh bien c'est Le Pigeon de Mario Monicelli et puis Les Apprentis de Pierre Salvadori. La ciné-thérapie de Guimet Odissino a podcasté et à partager sur l'appli Radio France. Dans un instant, on continue à se demander comment nos échecs peuvent changer notre vie. Ce sera juste après avoir écouté Amadou, Mariam, Emmanu Chao, Sénégal Fast Food, sorti en 2004, 10h29 sur Inter.
Minuit. seront mal. Quelle heure est-il? Bamako, Rio de Janeiro. Où est le problème? Où est la frontière? Entre les murs, se faufiler dans l'ascenseur. Ascenseur pour le ghetto. Au Manhattan, fast food, Dakar, Sénégal, cinéma de Paris.
Amadou, Mariam et Manu Chao, Sénégal Fast Food.
Grand bien vous fasse sur France Inter.
Comment nos échecs, nos fiascos peuvent quand même nous rendre heureux? C'est le thème ce matin en compagnie de l'humoriste et comédien Thomas VDB qui publie Fiascorama chez Buchet Chastel, où on rit beaucoup, beaucoup, et avec la philosophe Laurence de Villers.
Vous m'avez traité d'abruti? Oui. Je pratique les arts martiaux, judo, aïkido, karaté. La première chose qu'on nous apprend, c'est le contrôle. Un type me traite d'abruti, je ne cogne pas, je le regarde et je m'en vais.
Eh ben, tire-toi alors.
Vous avez de la chance. Allez, prends les chariots effilés. Vous avez de la chance.
Gros connard.
Vous avez de la chance.
Pédé.
Je suis arrivé à un contrôle total. En route. Pardonnez-moi cette démonstration de force, mais j'ai horreur qu'on marche sur les pieds.
Extrait de La Chèvre de Francis Weber, sorti en 1981. Thomas VDB, racontez-nous votre affinité avec ce personnage de François Perrin, interprété par Pierre Richard, ce personnage dont la vie est émaillée de ratages, de fiascos, d'échecs, de mésaventures. On comprend bien, quand même, en lisant votre livre, votre affection.
Le cousinage.
Le cousinage, l'affection. Donc, pour François Perrin.
Bah déjà, le film, et comme les films de Weber, bah, ils m'ont marqué, mais ils ont marqué toute la France. Ouais. Et donc, moi, j'ai des souvenirs d'enfance où je regardais La Chèvre pour la 40e fois en famille, et mon père avec des larmes de rire qui lui coulaient sur les joues à cette scène-là, même à la 40e fois. Maintenant, effectivement, est-ce qu'il y a un lien affectif particulier avec le personnage joué par Pierre Richard dans le film? Oui, parce que, évidemment, il lui arrive tous les malheurs du monde. Il est associé, on sait, à Depardieu dans le film, qui est le gars bourru, détective et tout, mais je trouve ce qui est fabuleux dans le personnage de Pierre Richard, à qui il arrive tous les malheurs du monde, c'est que c'est le gars qui est toujours candide, naïf et joyeux. Et c'est-à-dire, il est content, et c'est-à-dire qu'en dépit de toutes les merdes qui lui arrivent, il continue d'être joyeux, d'être content d'être là. Content d'être là, c'est vraiment un truc qui est un espèce de credo. Content d'être là, ça veut dire être joyeux du moment présent. Et c'est pas toujours évident d'être joyeux du moment présent, mais alors bien souvent, il suffit le moment présent. Et il suffit à créer de la comédie entre Depardieu et Pierre Richard, parce que à travers toutes ces galères et tout qui traverse dans le film, eh ben il y a toujours ce regard hyper, j'allais dire nigo. Nigo, c'est poussé un peu à l'extrême, mais toujours naïf et candide, qui fait qu'on est heureux d'être dans les yeux de Depardieu, qui le regarde en disant mais qu'est-ce que t'es encore en train de foutre, et de partager la joie donc de Francis Perrin, quoi, de François Perrin.
Laurence de Villers.
Mais oui, je pense que c'est important. Ce que vous venez de dire, c'est être là. Enfin, dans l'échec, on s'absente pas. On n'a pas disparu. Et c'est important de se dire que dans ces moments-là, en fait, on est vivant. Et c'est ça qu'on expérimente, parce qu'on n'a rien d'autre. C'est le fiasco. Donc tout nous a lâché. On a tout lâché. Mais qu'est-ce qui reste? Je suis, j'existe, comme
je
dirais.
D'accord. La honte. La honte, le ridicule, c'est des trucs qui rendent vivant. Alors, je suis désolé, on va être là. Non, c'est horrible, la honte. Oui, mais qu'est-ce que tu te sens en vie quand t'as honte?
Non, c'est pas horrible, c'est une conscience de soi, la honte.
Absolument.
C'est important. Je trouve qu'on n'en éprouve pas assez. Au
bien souvent, quand on la ressent, on se dit ah là là, j'aimerais mieux que ce soit lui là-bas.
Oui,
en général.
Aussi.
C'est vrai, ouais.
Thibaut de Saint-Maurice.
Oui, à vous entendre, j'ai l'impression que c'est ça qui est souvent en jeu, c'est se sentir là, présent, content d'être là. Si on prend les choses un peu à l'inverse, il y a beaucoup de situations dans nos vies, d'ailleurs c'est ce qu'on reproche un peu au quotidien, à la routine, où on a l'impression qu'on n'est pas vraiment là, que ça se passe sans nous, ou alors qu'on est impuissant, qu'on n'a pas de prise sur les événements, qu'est-ce qu'on peut faire pour lutter contre les misères du monde, etc. Et donc, il y a peut-être une vertu de ces situations d'échec, de honte, de fiasco, outre le fait qu'elles nous font sourire rétrospectivement, c'est que, eh ben, en fait, là, on est présent, on est en prise avec le réel, Alors que c'est si facile de s'en déprendre, hein, de faire ce métro-boulot-dodo, de ne pas regarder autour de soi, de ne pas avoir de rêve, de ne pas penser que c'est possible, etc. Donc il y a peut-être cette vertu-là de nous accrocher et de nous continuer de nous faire croire qu'il faut se battre et négocier avec des circonstances parfois un peu, curieuses ou changeantes.
Et même s'il y a un prix à payer, je pense que l'échec nous fait découvrir quelque chose que je trouve vraiment important et vertueux, pour reprendre le mot de Thibault, c'est l'humilité. Donc le contraire de cette démonstration de confiance en soi, et même le contraire de la confiance en soi, de la performance est évident, mais l'humilité, c'est en fait toujours ce qui permet d'aller à l'autre. Moi, je trouve que les œuvres qui ont le plus d'humilité sont celles qui donnent le plus. Et c'est ça aussi le comique. Dans le comique, il y a une générosité. Et on trouve de l'échec dans ce qui nous fait rire, parce que c'est paradoxal, hein, ce que je vais dire. Et encore une fois, je ne fais pas l'apologie du ratage, ça fait mal. Ça fait mal, mais il y a quelque chose de généreux, parce que tout d'un coup, on est humble, on n'est pas en démonstration de soi. Et c'est ça aussi qui fait que, on donne quelque chose, paradoxalement.
Guillemette.
Non, et puis simplement, je trouve que l'échec, y compris, et évidemment, ça c'est le plus beau dans sa part comique, c'est-à-dire dans le fait de se regarder immédiatement en train de s'enfoncer, par exemple, dans des sables mouvants, comme Pierre Richard, et de dire, il faudrait vraiment qu'on les marque sur la carte, c'est aussi de se rappeler que, en fait, la vie, c'est pas fastoche, quoi. Enfin,
exactement.
Non, mais il faut arrêter de penser tout le temps exactement. Que... Donc, en fait, la vie, c'est pas facile. Être amoureux, c'est pas facile. Draguer un mec, c'est pas facile. Enfin, draguer une fille, c'est pas facile non plus. Réussir un job, c'est pas facile. Écrire une chronique, c'est dur. Non, mais...
Surtout quand on procrastine comme vous.
Tout à fait. Mais c'est aussi... c'est important de se poser ça comme principe de base.
Je suis d'accord.
Que la vie, c'est pas fastoche, et qu'il n'y a qu'une seule manière, à peu près, c'est d'en rire, quoi.
Christian nous écrit « Je ne veux pas parler d'échecs, mais d'expérience accumulée. D'ailleurs, ma devise est « Le rétroviseur ne sert qu'à se dépasser et toutes mes expériences m'ont fait devenir ce que je suis maintenant. » Thomas VDB, des fiascos, il y en a un paquet dans votre livre, Fiascorama. Je pense à cet appartement que vous achetez dans un sinistre quartier d'Île-de-France.
Oui.
Vous sentez bien, Thomas VDB, que ce ne sera pas le bon choix. Mais vous l'achetez quand même, cet appart.
C'est pour faire raison... plaisir à la dame.
Et pour,
non, mais...
et pour une raison bien simple.
Oui, disons que j'ai fait... le premier petit appartement que j'ai pu m'acheter dans ma vie, c'était... Donc, au début, je voulais Paris, mais je n'avais pas les moyens. Donc, j'ai dit, je vais aller à Montreuil. Montreuil, c'était cher. J'ai dit, Bagnolet. Et donc, je rentre dans une agence immobilière à Bagnolet. Et là, je vois une vieille dame. Mais
Madame Gounod.
Madame Gounod, mais très vieille dame. Et donc, en fait, au point où quand je rentre dans l'agence immobilière, je pense que c'est la maman de l'agent immobilier et qu'il est parti chercher un café et qu'il lui a demandé, il lui a donné les clés, il dit maman garde le truc. Et je rentre là, je vois vraiment une vieille dame et je dis bonjour, donc j'attends. Et elle me dit c'est pourquoi ? Je dis je viens d'appartement, elle me dit ah oui, ben suivez. Et donc je comprends que c'est l'agent immobilière, donc je dis d'accord. Donc je vois un appart, elle m'emmène visiter un appart que je trouve hyper bien à Montreuil et j'appelle mes parents juste après, je dis c'est bon, premier que j'ai visité, c'est génial. Mon père il me dit t'es fou, faut en visiter plein. Ah bon ? Il me dit mais oui, faut en visiter plein. Je dis c'est impossible de trouver du premier coup. Non, faut en visiter plein. Et donc je dis merde, putain, je croyais que j'allais trouver du premier coup. Donc j'en fais plusieurs. Et puis au bout d'un moment, je dis à la dame, il est plus dispo, celui de Montreuil. Elle me dit, ah non, il a été vendu. Et puis je vois qu'elle commence à en avoir marre de me faire visiter les apparts. Et un jour, elle m'emmène visiter cet appart à Bagnolet et je vois qu'elle a du mal à se déplacer. Vraiment, c'est hyper un boulot que tu peux pas faire quand t'as du mal à te déplacer. Et donc on arrive, on rentre dans l'appart qui est joli. Mais vraiment, mais c'est pas du tout un appart pour moi. Et je dis, ah ouais, c'est joli. Elle me dit, ah ben s'il vous plaît, faut y aller vite là. Parce que... Elle me dit, là, il y a plein de gens sur le coup. Et donc là, c'était dans mes. Financièrement, ça rentrait dans les clous pour moi. Et donc, je voyais qu'elle en avait marre. Donc je dis, je vais pas la contrarier. J'ai dit, allez, je le prends. Allez, je le prends. J'ai habité 10 ans dans cet appart lequel j'avais pas du tout prévu ni envie à la base d'habiter.
Et à cause de cette gentillesse pour cette Madame Gounod, vous restez 8 ans dans ce que vous appelez ce triangle de la stagnation immobilière, puisque absolument. Cet appartement n'a strictement pris aucune valeur financière.
Je suis dans
zéro plus-value.
Le triangle un beau fiasco. De l'évolution.
Un beau fiasco. Absolument. Tiens, un autre échec. C'était ici à France Inter. En 2008, vous devenez chroniqueur dans l'émission Le Fou du Roi, présentée par Stéphane Bern. Et là, je vous cite, vous enchaînez les chroniques formidablement laborieuses. Et vous parlez même de nullité. Je vous cite, à mes sorties de studio, je suis presque ahuri par le sentiment d'échec.
Ouais. Mais c'est exactement ça. C'est-à-dire que j'ai fait plein de chroniques à mes débuts internes qui font qu'encore aujourd'hui, je me dis, mais pourquoi ils m'ont gardé, quoi ? Mais vraiment, je ne comprenais pas. Et d'ailleurs, je dis, même quand je revenais la fois d'après pour une nouvelle chronique, je voyais d'autres chroniqueurs qui me voyaient qui avait l'air étonné.
Il est encore là.
J'étais presque désolé de les faire être obligé de me regarder, sachant.
Ce sentiment d'échec à l'époque, ça entame votre estime de soi, ça vous déprime, ou alors ça vous amuse parce que vous prenez un peu de recul.
À l'époque, ça m'ébranle un peu quand même, j'avoue. C'est-à-dire qu'en fait, j'enchaînais. En fait, je me mettais une telle pression pour écrire mes chroniques. Dès qu'on me disait dans 2 semaines, t'as une chronique, pendant 2 semaines, j'y réfléchissais et tout. Et en fait, j'y réfléchissais trop. J'enlevais toute la spontanéité qu'il faut, dont on a besoin quand on fait une chronique. Et donc, non, je pense qu'il y a eu un moment, un déclic où je me suis dit, ah tiens, j'ai recommencé à faire rire avec des chroniques, mais il y a un enchaînement d'une dizaine de chroniques, une douzaine. Stéphane Bern, un jour, il m'a envoyé un mail en me disant, écoute, il y a un problème. Là. C'est quoi? Et quand on rentre chez soi après la chronique, on se dit, j'ai pas l'impression de l'avoir réussi. On ouvre le mail, il y a un mail de Stéphane Bern qui dit, il y a un problème. On a l'impression d'être chez le proviseur, quoi. Mais vraiment, voilà. Mais finalement, ça a été mieux après.
Oui, pardon, Laurent Devillain.
Non, mais ça veut dire que c'est quand même important de se rendre compte qu'on échoue. Encore une fois, faut pas positiver l'échec à tout prix, parce que dans la réussite, si on emploie quand même ce terme, moi, je préfère l'idée d'ajustement. Il y a s'ajuster à quelque chose. C'est quand même, vous êtes rendu compte que les chroniques, c'était mieux après. C'est important aussi de ne pas chercher à tout prix à ripolliner en rose nos échecs. Il y a un ratage.
Les tout débuts, ouais, j'ai des souvenirs un peu difficiles.
Il faut avoir des patrons patients.
Il était très patient avec nous deux. Rétrospectivement, je plaisante évidemment. Rétrospectivement, attribuez-vous une part de vos ratés, de vos flops à votre TDAH, ce trouble de l'attention avec ou sans hyperactivité. Vous avez été diagnostiqué tardivement à l'âge adulte. Est-ce que vous reliez un certain nombre de vos ratages à ce TDAH ?
Oui, probablement, parce qu'il y a, comme le disait Guimette tout à l'heure en parlant du début du livre, où je parle de ma paresse. Donc la paresse qui consiste, je peux expliquer en quoi consiste la paresse, je pense que les gens sont bien au courant. La procrastination, le fait que on n'a pas toujours une estime de soi qui est à la hauteur, le fait que on est en retard, dispersé, désorganisé, et donc énormément de mes échecs sont reliables à beaucoup de ces travers de ma personnalité que j'ai. La désorganisation, c'est vraiment un truc problématique, mais j'ai l'impression que c'est moi qui l'ai inventé, quoi, la désorganisation. Hein.
Thomas VDB, une expo qui va vous ravir, c'est l'expo Flop au Musée des Arts et Métiers à Paris jusqu'au 17 mai 2026. Et nous accueillons Jean-Baptiste Tène, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes commissaire de l'exposition, vous êtes muséographe et graphiste. Alors flop, c'est l'un des synonymes de l'échec, du raté, de la déconfiture, du fail. Et dans cette expo, vous vous intéressez aux multiples causes du flop en matière d'invention. Flop en matière d'invention dans nos sociétés qui valorisent plutôt l'innovation tout en entretenant une aversion pour l'échec. Hein.
Bah, c'est un petit peu ce qu'on a vu, c'est que... Et vous l'avez très bien exprimé dans l'émission depuis le début, c'est que on a tendance à assez mal vivre l'échec. Nous, on a choisi, au contraire, d'aller regarder ce qui, dans l'échec, permet d'avancer et permet d'aller un peu plus loin. Et donc, on montre comme ça beaucoup d'inventions qui ont raté.
Et vous montrez d'ailleurs que 90% des inventions échouent.
Et il faut aussi rater, il faut prototyper, il faut essayer pour avancer, pour innover.
Vous montrez d'ailleurs que 90% des inventions échouent. L'invention contient en soi l'échec.
Oui, tout à fait. C'est le chiffre qu'on donne généralement. C'est 9 chances sur 10 de que l'invention ne sorte pas.
Alors, vous intéressez aux multiples causes du flop, du fiasco en matière d'invention. Il y a, par exemple, toutes ces bonnes idées trop en avant sur leur temps.
C'est une bonne raison d'échouer, c'est d'arriver trop tôt, en fait. Trop tôt parce qu'on n'est pas au point, ou trop tôt parce que les clients potentiels ne sont pas encore prêts.
Thomas VDB, vous étiez arrivé trop tôt chez Stéphane Bern.
Peut-être, c'est ça. J'avais un humour trop avant-gardiste.
Et puis, il y a aussi une technologie encore immature quand l'invention apparaît.
Voilà, c'est en fait, on fait un peu le tour des grandes raisons pour lesquelles une invention ne va pas marcher. Et effectivement, oui, quand la maturité technologique n'est pas là, quand globalement, on va dire, l'invention, elle ne marche pas, le moteur ne marche pas, ou quelque chose ne fonctionne pas, ça ne va pas marcher, on va faire un flop.
Et après avoir visité cette expo, quel sentiment devrait prédominer chez les visiteurs ?
Alors nous, ce qui nous a intéressé, c'est d'essayer de terminer dans la dernière partie de l'expo pour en parlant un peu des conditions. Alors c'est pas un mode d'emploi, mais on termine un peu par les conditions pour qu'une invention devienne une innovation. Donc une innovation, c'est on dit souvent, c'est une invention qui a trouvé son public, qui a su se démarquer et puis réussir. Et l'idée qu'on a assez envie, c'est de que les gens sortent déjà en débattant. On a une dernière partie où on leur pose, on les met devant des inventions qui sont aujourd'hui présentes et dont on ignore tout à fait le destin, en leur demandant de se positionner. Est-ce qu'ils adopteraient ou pas, mettons, les toilettes sèches pour immeubles collectifs ou la contraception masculine. Enfin, on a des choses comme ça. On a un boxeur contraceptif. Et est-ce qu'on va l'adopter? Est-ce qu'on va l'accepter? Est-ce qu'on va avoir envie de s'y mettre? Donc, on tente de susciter aussi un peu le débat. Et puis, globalement, c'est quand même une expo sur laquelle on essaie de rester assez léger pour bien se dire que rater fait partie du jeu.
Thomas VDB, vous allez courir à cette expo, Musée des Arts et Métiers?
Ah
à
oui,
Paris.
Ça me donne envie. Avec le nom de l'expo, là, je dis, ah, tiens, s'il existe ça, je vais foncer après l'émission.
Merci beaucoup, Jean-Baptiste Ten. Cette expo, c'est jusqu'au 26 mai, c'est ça, en 2026 17 mai 2026. Tiens, Thomas VDB, il y a un passage que j'ai beaucoup aimé dans votre livre, et je vous propose de le lire.
Alors, c'est moi qui ai écrit ça. Alors, plus je vieillis, plus je suis effaré par la constance avec laquelle je continue de me prendre des murs dans la vie. Que ce soit par paresse, désorganisation, naïveté ou à cause de ma phobie de laisser une mauvaise impression. Ça fait des années que ça dure et je ne vois pas l'ombre du début d'amélioration. Je continue de prendre des décisions de traviole. Oui, c'est vraiment... C'est fou que j'ai écrit ça, mais c'est vrai que c'est vrai. Non, parce que je peux pas donner l'impression qu'il y a un progrès énorme.
Non, mais ça fait du bien de l'entendre.
C'est pas parce que je fais le bilan de plein de trucs qui ont foiré dans ma vie que je me dis, allez, je mets ça derrière moi, il n'y aura plus jamais de bide. Qui je serais pour penser ça?
Et qu'est-ce que vous avez envie de dire à toutes celles et tous ceux qui vivent fiasco sur fiasco, qui traînent la patte, ceux qui finiront toujours 90e sur 100, celles et ceux pour qui ça ne marche pas ni au 3e ni au 10e coup, à tous ces François Perrin dans la chèvre de Francis Weber? Qu'est-ce que vous avez envie de dire?
Je leur dis, mais vous n'êtes pas seul. Vous êtes entouré de gens comme ça. C'est pas parce que vous n'êtes pas le premier. Enfin, ça n'a pas d'importance d'être le premier. Voilà, vous allez peut-être rater d'autres fois. Riez-en, partagez, faites rire vos amis avec les trucs que vous ratez. C'est ça.
Guillemette.
Et puis vous êtes tous peut-être des Thomas VDB en puissance, puisque en fait, on vient de l'entendre, une innovation. C'est quelque chose qui a trouvé son public.
Exactement.
Donc Thomas VDB est une innovation.
Tiens, merci. Petite anecdote, j'ai appris en lisant votre livre que vous étiez cousin avec le député LR Laurent Wauquiez, président.
Oui. Ça, c'est vrai. C'est vrai.
Président de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Et Télérama a raconté hier le fiasco d'un spectacle voulu par votre cousin, Raconte-moi la France, qui voulait rivaliser avec le Puy du Fou. 500 000 euros investis par la région pour un spectacle qui a connu un gros flop. Vous avez peut-être un conseil à donner à votre cousin?
Alors déjà, il faut savoir que c'est un cousin que je n'ai jamais rencontré de ma vie, hein, Laurent Wauquiez. Je tiens à le préciser parce que les gens, ils vont se dire, mais quoi, t'as fait des réunions pour le spectacle avec Laurent Wauquiez? Non, Raconte-moi la France de Laurent Wauquiez. Ça va être de savoir, ouais, il aurait dû m'appeler. S'il m'avait appelé pour essayer de l'écrire,
peut-être,
ça aurait pu être encore plus un fiasco. Non, j'aurais pu l'aider parce que ce serait encore plus nul et moins abouti.
Laurence de Villers, si on terminait avec le premier ministre préféré de Guillemette Odissino, Winston Churchill, qui préférait parler de victoire,
aussi, hein.
Qui préférait parler de victoire et de défaite.
Ah oui, ça me semble
plutôt
très
que
important.
De réussite et de raté.
Ouais, alors, Churchill, ouais. C'est aussi mon premier ministre préféré de loin. C'est pas difficile, vous me direz. Mais oui, parce que je trouve plus important de se dire que la réussite, c'est pas le but, c'est ce que dit Churchill, c'est la victoire et c'est autre chose, parce que dans la victoire, on peut être comme lui, revenir d'une traversée du désert, être l'homme dont personne ne voulait. Et ça permet d'aller à la victoire, parce que justement, on veut pas la réussite qui est faite quand même pour plaire au plus grand nombre. Et puis que il y a mieux que l'échec, il y a la défaite. Pourquoi ? La défaite, c'est faire de son échec le moyen de recommencer. Parce que dans une défaite, on se refait. C'est comme un jeu. Et encore une fois, je pense qu'il y a quelque chose d'important à se dire, que l'intelligence, elle est très souvent à contre-courant. Et que le social, la vie sociale, où on mène des carrières, c'est pas la même temporanité, ni le même rythme, ni les mêmes exigences que l'intelligence. Donc on peut avoir de l'or en soi, mais
pas faire carrière, parce que le social, c'est pas la même chose.
Et d'ailleurs, Thomas VDB, vous avez écrit qu'elle soit accidentée, boueuse, parsemée de dodanes et de nids de poules, l'important, c'est la route. J'ai l'impression que c'est du Christophe André, notre ami Christophe André qui aurait écrit ça.
C'est vrai, écoutez, je suis un peu philosophe aussi, du coup, c'est bien, ça me fait plaisir.
Allez, dans quelques instants, la punchline philo de Thibaut de Saint-Maurice, la phrase la plus célèbre de Nietzsche. Tout ce qui ne tue pas rend plus fort, ça fait lever au ciel, les yeux au ciel de Guillemette Odissino. On se retrouve juste après avoir écouté Joy Crooks, Somebody to You, 10h51 sur Inter. Interpréter Somebody to You.
France Inter.
Nietzsche a dit.
Rends bien vous face.
L'homme qui a dit mort est pareil au chien qui mord une pierre.
Qu'est-ce qu'il dit ?
Il dit que l'homme n'est pas toujours un loup pour l'homme.
Ah bon ? Si.
Ben si. Si.
Alors ce matin, Thibaut de Saint-Maurice, vous vous intéressez à la punchline philosophique et peut-être celle que l'on a le plus entendue dans la pop culture, ce qui ne me tue pas me rend plus fort.
Mais oui, Ali, alors on ne compte plus les chansons qui reprennent cette maxime, même notre Johnny National, par exemple, en fait une chanson ouais, dans son album Ma Vérité, en 2005. Je vous conseille de l'écouter. On la retrouve aussi sur des t-shirts, des mugs, des affiches, des pubs, des répliques de films, et je parie même que c'est la citation philosophique la plus tatouée au monde. Alors d'où vient-elle ? D'un texte du philosophe Nietzsche. Alors Nietzsche, c'est celui avec la grosse moustache et aussi avec la succession improbable de consonnes dans son nom, intitulé donc le livre Le Crépuscule des Idoles. Nietzsche écrit « Appris à l'école de guerre de la vie, ce qui ne me tue pas me rend plus fort ». La force immédiate de cette formule, ce qui fait qu'on a envie de la retenir, c'est qu'elle semble être la meilleure réponse à nos échecs, à notre souffrance, aux obstacles que la vie met sur notre chemin. On souffre, ok, mais on s'en sortira plus fort après. Et c'est même pratique de pouvoir dire ça à nos amis qui sont dans une mauvaise passe, comme pour les rassurer. Là, c'est difficile, tu morfles, mais ne t'inquiète pas, tu seras plus fort après. Tout se passe donc comme si Nietzsche, avec cette formule, avait deviné ce qu'on appelle, ou anticipé ce qu'on appelle aujourd'hui la résilience. Et plus cette formule est reprise, répétée, et souvent d'ailleurs déformée, plus on a l'impression qu'elle contient une des grandes vérités du développement de soi. Il faut faire face à la souffrance, car c'est la seule condition pour devenir une meilleure version de soi-même.
Mon petit doigt me dit que vous n'êtes pas forcément convaincu par cette signification.
Eh ben, pas vraiment, non. Et au moins pour trois raisons. Alors d'abord parce qu'il n'y a pas de lien de cause à effet qui marcherait à tous les coups entre ce qui ne me tue pas et ce qui me rend plus fort. Il y a des contrariétés, par exemple, qui ne me tuent pas, mais qui ne me rendent pas plus fort pour autant. J'ai perdu mes clés ou je perds mon téléphone, ça ne me tue pas, et pourtant je ne serai pas plus fort d'avoir perdu ce téléphone ou ses clés. Et de même, il y a des souffrances chroniques, des obstacles majeurs auxquels je survis, mais qui m'affaiblissent durablement et avec lesquels je vis pourtant, mais donc d'une vie diminuée, affaiblie. Donc, ça ne marche pas à tous les coups, il n'y a pas de relation logique. Deuxième raison, parce que Nietzsche n'est pas en train de nous donner une leçon de morale. Il ne justifie pas la souffrance comme une épreuve à travers laquelle nous gagnerions notre rédemption ou notre salut. Vous l'aurez noté, Nietzsche passe d'un rapport moral entre le bien et le mal à un strict rapport de force. Il parle de l'école de guerre de la vie et de rendre plus fort. Donc, la souffrance ou l'adversité ne sont pas en soi de bonnes choses à vivre. Et puis, troisième raison. En écrivant « Ce qui ne me tue pas me rend plus fort », Nietzsche fait juste le constat de ce que la souffrance déclenche chez lui, au moment où il la vit. Il se sert de la souffrance comme d'un outil de connaissance de la puissance de la vie. La force ici, ce n'est pas celle de l'homme guéri, mais celle de l'homme qui reconnaît qu'il souffre, qu'il affronte, qu'il la supporte, et qui finalement assume que la vie, ça soit aussi ça. La question n'est donc pas de dépasser l'adversité, mais d'en faire le révélateur de la force de la vie en soi. Pour vivre, non pas malgré la souffrance, mais pour vivre puissamment la souffrance. Cette maxime, elle n'a donc rien d'une pensée positive ou optimiste, ce n'est pas une promesse. Parce que d'ailleurs, Nietzsche reste au présent. Il dit « Ce qui ne me tue pas me rend plus fort et non pas me rendra plus fort après, quand je serai guéri. » Alors pour finir de le comprendre, on peut inverser la proposition. Ce qui me rend fort, c'est ce qui ne me tue pas. Et si ça ne me tue pas, alors c'est encore de la vie. C'est toujours de la vie, puissante et variée, dont seuls les forts sont capables de vivre toutes les variations, même les plus difficiles, maintenant.
Thomas VDB ?
Alors, je trouve ça très juste. Ça m'évoque en fait la phrase qui a été écrite par un camarade avec qui j'écris, qui s'appelle Romain Forgeor. C'est un syllogisme qu'il a écrit que je m'en suis voulu, après l'avoir relu, de ne pas avoir mis en exergue de mon livre, puisque lui disait exactement « Le ridicule ne tue pas, ce qui ne te tue pas me rend plus fort, donc le ridicule me rend plus fort. » Et je trouvais que ça avait sa place ici aussi.
Les punchlines de la philo de Thibaut de Saint-Maurice à podcaster sur l'appli Radio France, et n'oubliez pas ce soir à 20h, l'heure philo avec notre amie Patricia Martin. Merci aux amis du vendredi, Thibaut et Guillemette. Merci Thomas VDB.
Merci à vous.
Fiascorama, c'est publié chez Buchet-Chassel. On peut vous voir aussi dans le dernier Kaamelott au cinéma.
Absolument.
Merci Laurence de Villers. Je signale la série de conférences philo. Les philosophes sauveront la planète à la librairie Delta dans le 6e arrondissement de Paris. Un mercredi par mois, la prochaine.
Oups. L'homme est un loup pour l'homme.
Ça sera quand ?
Le 3 décembre.
Merci à Nathalie Romero pour la programmation de cette émission avec la collaboration de Noé Brabant. Merci à Claire Destacan pour la réalisation, à Valentine Chedebois pour la programmation musicale, à la technique ce matin, Mélissa Etroit.